Une grande journée. Vae Victis, un vieux chef gaulois ou romain. Ce lundi matin, en classe, cela tourna mal. Plus mal encore que le samedi. Camus, sommé par le père Simon de répéter en leçon d'instruction civique ce qu'on lui avait seriné l'avant-veille sur le citoyen, s'attira des invectives dépourvues d'aménité. Rien ne voulait sortir de ses lèvres. Toute sa face exprimait un travail de gésine intellectuelle horriblement douloureux. Il lui semblait que son cerveau était muré. « Citoyen, citoyen !» pensaient les autres, moins ahuris. « Qu'est-ce que ça peut bien être que cette saloperie-là » « Moi, monsieur !» fit la crique en faisant claquer son index et son méduse contre son pouce. « Non, pas vous !» et s'adressant à Camus, debout, la tête branlante, les yeux éperdus. « Alors, vous ne savez pas ce qu'est un citoyen ? Je vais vous coller à tous une heure de retenue pour ce soir !» Des frissons froids coururent le long des échines. « Enfin, vous, êtes-vous citoyen ?» fit le maître d'école qui voulait absolument avoir une réponse. « Oui, monsieur, répondit Camus, se souvenant qu'il avait assisté avec son père à une réunion électorale où monsieur le marquis, le député, devait offrir un verre à ses électeurs et leur serrer la main, même qu'il avait dit au père Camus « C'est votre fils, ce citoyen-là ? Il a l'air intelligent. » « Vous êtes citoyen, vous !» ragea l'autre, cramoisi de colère. « Eh bien, oui ! Il est joli, le citoyen ! Vous m'en faites un propre de citoyen !»« Non, monsieur, » reprit Camus, qui, après tout, ne tenait pas ce titre. « Alors, pourquoi n'êtes-vous pas citoyen ? » ?»« Dis-y, marmonna entre ses dents la crique agacée, que c'est parce que t'as pas encore de poil au cul. »« Qu'est-ce que vous dites, la crique ?»« Je dis que quoi ?»« Que c'est parce qu'il est trop jeune. » « Ah, eh bien, maintenant, y êtes-vous ?» On y était. La réponse de la crique fit l'effet d'une rosée bienfaisante sur le champ desséché de leur mémoire. Des lambeaux de phrases, des morceaux de qualité, des débris de citoyens se réajustèrent, se replâtrèrent petit à petit. Et Camus lui-même, moins ahuri, toute sa personne remerciant véhémentement la crique le sauveur, contribua à recamper le citoyen. Enfin, c'était toujours ça de passé. Mais quand on en vint à la correction du devoir de système métrique, cela ne fut pas drôle du tout. Préoccupés comme ils l'étaient l'avant-veille, ils avaient oublié en copiant de changer des mots et de faire le nombre de fautes d'orthographe qui correspondaient à peu près à leurs forces respectives en la matière, forces mathématiquement dosées par des dictées bi-hebdomadaires. Par contre, ils avaient sauté des mots, mis des majuscules où il n'en fallait pas et ponctué en dépit de tout sens. La copie de Lebrac surtout était lamentable et se ressentait visiblement de ses graves soucis de chef. Aussi fut-ce lui qui fut amené au tableau par le père Simon, cramoisi de colère, les yeux luisants derrière ses lunettes comme des prunelles de chat dans la nuit. Comme tous ses camarades d'ailleurs, Lebrac était convaincu d'avoir copié. Évidemment, ça ne faisait de doute pour personne, inutile de répliquer. Mais on voulait savoir au moins s'il avait su tirer quelques fruits de cet exercice banni en principe des méthodes de la pédagogie moderne. « Qu'est-ce que le maître, Lebrac ? Qu'est-ce que le système métrique ? Comment a-t-on obtenu la longueur du mètre ?» Trop éloigné de la crique, Lebrac, les oreilles à l'affût, le front effroyablement plissé, suait sang et eau pour se rappeler quelques vagues notions et entrées à la matière. Enfin, il se remémora vaguement, très vaguement, de nom propre cité. De l'ambre et la condamine, mesureur célèbre de morceaux de méridien. Malheureusement, dans son esprit, de l'ambre s'associait aux pipes en écume qui flambaient derrière la vitrine de Léon le buraliste, aussi hasarda-t-il avec tout le doute qui convenait en si grave occurrence. C'est... l'écume et le con. Le con. Ah ! Qui ? Quoi donc ? Fit le père Simon au paroxysme de la colère. Voilà que vous insultez les savants maintenant. Vous en avez un de toupé, par exemple. « Et un joli répertoire, ma foi. Mes compliments, mon ami. »« Et vous savez, » ajouta-t-il pour assommer le malheureux, « vous savez que votre père m'a recommandé de vous soigner. Il paraît que vous n'en fichez pas la secousse à la maison. Toujours sur les quatre chemins à faire le galvaudeux, la guape, le voyou, au lieu de songer à vous décrasser le cerveau. »« Eh bien, mon ami, si vous ne me répétez pas à 11 heures tout ce que nous allons redire pour vous et pour vos camarades qui ne valent guère mieux que vous, » je vous préviens, moi, que pour commencer, je vous foutrai en retenue de 4 à 6 tous les soirs, jusqu'à ce que ça marche. Voilà !» Le tonnerre de Zeus tombant sur l'assemblée n'eût pas provoqué stupeur plus profonde. Tous restaient écrasés par cette épouvantable menace. Aussi le Braque et les autres, du plus grand au plus petit, écoutèrent-ils ce jour-là avec une attention concentrée les paroles du maître exposant rageusement les abus des anciens systèmes de poids et mesure et la nécessité d'un système unique. Et ils n'approuvèrent point en leur fort intérieur la mesure du méridien de Dunkerque à Barcelone. S'ils se réjouirent des ennuis de Delambre et des embêtements de Méchain, ils en retèrent avec soin les incidents et péripéties pour leur gouverne personnelle et leur sauvetage immédiat. Mais Camus et le Braque, et Tintin et la Crique même, partisans du progrès, et tous les autres, se jurèrent bien, nom de Dieu, qu'en souvenir de cette terrible frousse, ils préféreraient toujours mesurer par pied et par pouce, comme avaient fait leur père et grand-père, qui ne s'en étaient pas portés plus mal, la belle blague, plutôt que d'employer ce sacré système de bourrique qui avait failli les faire passer pour couillons aux yeux de leurs ennemis. L'après-midi fut plus calme. Ils avaient retenu l'histoire des Gaulois, qui étaient de grands batailleurs et qu'ils admiraient fort. Aussi, ni le Braque, ni Camus, ni personne ne fut gardé à 4 heures. Chacun, et le chef en particulier, ayant fait de remarquables efforts pour contenter cette vieille andouille de Père Simon. Cette fois, on allait voir. Tintin, avec ses 5 guerriers, qui avaient eu à midi la sage précaution de mettre leur goûter dans leur poche, prirent les devants, pendant que les autres allaient quérir leur morceau de pain. Et quand, devant les ennemis apparaissant, retentit le cri de guerre de Longeverne, « Acculé Vélran !» Ils étaient déjà habilement et confortablement dissimulés, prêts à toutes les péripéties du combat corps à corps. Tous avaient les poches bourrées de cailloux. Quelques-uns même en avaient rempli leurs casquettes ou leurs mouchoirs. Les frondeurs vérifiaient les nœuds de leurs armes avec précaution. La plupart des grands étaient armés de triques d'épines ou de lances de coudre avec des nœuds polis à la flamme et des pointes durcies. Certaines s'enjolivaient de naïfs dessins obtenus en faisant sauter l'écorce. Les anneaux verts et les anneaux blancs alternaient, formant des bigarrures de zèbre ou des tatouages de nègre. « C'était solide et beau, » disait Boulot, dont le goût n'était peut-être pas si affiné que la pointe de sa lance. Dès que les avant-gardes eurent pris contact par des bordées réciproques d'injures et un échange convenable de moellons, les gros des deux troupes s'affrontèrent. À 50 mètres à peine l'un de l'autre, disséminés en tirailleurs, se dissimulant parfois derrière les buissons, sautant à gauche, sautant à droite, pour se garer des projectiles, les adversaires en présence se défiaient, s'injuriaient, s'invitaient à s'approcher, se traitaient de lâches et de froussards, puis se criblaient de cailloux, pour recommencer encore. Mais il n'y avait guère d'ensemble. Tantôt c'était les Vélran qui avaient le dessus, et tout d'un coup les Longeverne, par une pointe hardie, reprenaient l'avantage, les tricovant, mais ils s'arrêtaient bientôt devant une pluie de pierres. Un Vélran avait reçu pourtant un caillou à la cheville et avait regagné le bois en clochant. Du côté de Longeverne, Camus, perché sur son chêne d'où il maniait la fronde avec une dextérité de singe, n'avait pu éviter le godon d'un Vélran, de Twegel, croyait-il, qui lui avait choqué le crâne et l'avait tout enseigné. Il avait même dû descendre et demander un mouchoir pour bander sa blessure, mais rien de précis ne se dessinait. Pourtant, Grand Gibus tenait absolument à utiliser l'embuscade de Tintin et à en chauffer un, disait-il. C'est pourquoi, ayant communiqué son idée à Le Braque, il fit semblant de se faufiler seul du côté du buisson occupé par Tintin pour assaillir de flanc les ennemis. Mais il s'arrangea du mieux qu'il put pour être vu de quelques guerriers de Vélran, tout en ayant l'air de ne pas remarquer leur manœuvre. Il se mit donc à ramper et à marcher à 4 pattes du côté du haut, et il ricana sous cap quand il aperçut Mig la Lune et 2 autres Vélran se concertant pour l'assaillir, sûrs de leur force collective contre un isolé. Il avança donc imprudemment, tandis que les 3 autres se rasaient de son côté. Le Braque, à ce moment, poussait une attaque vigoureuse pour occuper le gros de la troupe ennemie, et Tintin, qui voyait tout de son buisson, prépara ses hommes à l'action. « Ça va viendre, mes vieux, attention !» Grand Gibus était à 6 pas de leur retraite du côté des Vélran, quand les 3 ennemis, surgissant tout à coup d'entre les buissons, se jetèrent furieusement à sa poursuite. Tout comme s'il était surpris de cette attaque, le Longeverne fit volte-face et battit en retraite. Mais assez lentement pour laisser les autres gagner du terrain et leur faire croire qu'ils allaient le pincer. Il repassa aussitôt devant le buisson de Tintin, serré de près par Mig la Lune et ses 2 acolytes. Alors Tintin, donnant le signal de l'attaque, bondit à son tour avec ses 5 guerriers, coupant la retraite au Vélran et poussant des cris épouvantables. tous sur Mig la Lune, avait-il dit.
Ah, cela ne fit pas un pli. Les trois ennemis, paralysés de frayeur à ce coup de théâtre inattendu, s'arrêtèrent net, puis crochèrent vivement pour regagner leur camp, et deux s'échappèrent en effet comme l'avait prévu Tintin. Mais Mig la Lune fut happé par six paires de griffes et enlevé, emporté comme un paquet dans le camp de Longeverne, parmi les acclamations et les hurlements de guerre des vainqueurs. Ce fut un désarroi dans l'armée de Velleran, qui battit en retraite sur le bois, tandis que les Longevernes, entourant leurs prisonniers, beuglaient haut leur victoire. Mig la Lune, entouré d'une quadruple haie de gardiens, se débattait à peine, écrasé sous l'aventure.
« Ah, mon ami, on s'a fait choper !» fit le grand Lebrac sinistre.
« Eh bien, attends un peu pour voir.
Ne me faites point de mal !» bégaya Mig la Lune.
« Oui, mon petit, pour que tu nous traites encore de pourri de couilles molles.
C'est pas moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous allez me faire ?»«
Apportez le couteau !» commanda Lebrac.
« Oh, maman, qu'est-ce que vous allez me couper ?»«
Les oreilles !» beugla Tintin. « Et le nez !» ajouta Camus. « Et le zizi !» continua la crique. « Sans oublier les couilles !» compléta Lebrac. « On va voir si tu les amolles. »«
Faudra lui lier le sac avant de couper, comme on fait avec les petits taureaux, » fit observer Gorbette, qui avait apparemment assisté à ces sortes d'opérations.
« Sûrement. Qui c'est qu'à la ficelle ?»«
N'en v'là !» répondit Tigibus. « Me faites point de mal, ou je le dirai à ma maman !»
larmoya le prisonnier.
« Je m'en fous autant de ta mère que du pape !» riposta le braque cynique. « Et à monsieur le curé !» ajouta Mig la Lune, épouvantée.
« Je te redis que je m'en refous !»«
Et au maître » dit-il encore, miguant plus que jamais.
« Je l'emmerde ! Ah, voilà que tu nous menaces par-dessus le marché maintenant ! Manquez plus que ça ! Attends un peu, mon salaud ! Passez-moi le châtre-bique !»
Et le stache en main, le braque aborda sa victime. Il passa d'abord simplement le dos du couteau sur les oreilles de Mig la Lune qui, croyant au froid du métal que ça y était vraiment, se mit à sangloter et à hurler. Puis, satisfait, il s'arrêta dans cette voie et se mit en devoir de lui affûter, comme il disait, proprement ses habits. Il commença par la blouse. Il arracha les agrafes métalliques du sol, coupa les boutons des manches ainsi que ceux qui fermaient le devant de la blouse, puis il fendit entièrement les boutonnières. Ensuite de quoi Camus fit sauter ce vêtement inutile. Les boutons du tricot et les boutonnières subirent un sort pareil. Les bretelles n'échappèrent point. On fit sauter le tricot. Ce fut ensuite le tour de la chemise. Du col au plastron et aux manches, pas un bouton ni une boutonnière n'échappa. Ensuite le pantalon fut lui-même échenillé. Pattes et boucles, et poches, et boutons, et boutonnières y passèrent. Les jarretières en élastique qui tenaient les bas furent confisquées. Les cordons de souliers taillés en 36 morceaux.
T'as pas une caleçon, non ?
Reprit le braque en vérifiant l'intérieur de la culotte qui dégringolait sur les jarrets.
Eh bien, maintenant fous le camp !
Il dit, et tel un honnête juré qui, sous un régime républicain, sans haine et sans crainte, obéit uniquement aux injonctions de sa conscience, il ne lui lança pour finir qu'un solide et vigoureux coup de pied à l'endroit où ce que le dos perd son nom. Rien ne tenait plus des habits de Mig la Lune et il pleurait, misérable et petit, au milieu des ennemis qui le raillaient et le huaient.
Viens donc m'arrêter maintenant, invita Grand Gibus Narquois, tandis que l'autre, ayant remis sur son tricot qui ne boutonnait plus sa blouse qui pendait en marchant de bique, essayait en vain de rassembler dans son pantalon les pans de sa chemise débraillée.
Va voir maintenant ce que veut te dire ta mère, acheva Camus, retournant le poignard dans la plaie.
Et lent, dans le soir qui tombait, traînant les pieds où ses souliers tenaient à peine, Mig la Lune, pleurant, geignant et sanglotant, rejoignit dans le bois ses camarades à l'affût qui l'attendaient anxieusement, l'entourèrent et lui portèrent aide et secours autant qu'il était en leur pouvoir de le faire. Et là-bas, au levant où leur groupe se distinguait mal maintenant dans le crépuscule, retentissaient les cris de triomphe, les insultes narquoises et Longeverne victorieux. Le braque enfin résuma la situation.
« Hein, on leur y a posé. Ça leur apprendra, ces alboches-là. »
Puis, comme rien de nouveau n'apparaissait à la lisière, cette journée étant définitivement la leur, ils dévalèrent le communal de la Sotte jusqu'à la carrière à Pépio. Et de là, par rang de six, bras dessus, bras dessous, le braque de côté, le bâton brandi, Camus en avant son mouchoir rouge de sang servant d'enseigne au bout de sa trique de bataille, ils partirent au commandement du chef, claquant des talons et marquant le pas, vers Longeverne en chantant de tous leurs poumons.
La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats.